La grande matinale, le mag, je vous emmène jusqu'à 10h avec une bonne pile de livres, de la controverse et de la satire, faut dire. Charline Vanhoenacker s'intéressera aux propositions des candidats à la mairie de Paris, des propositions en matière de culture. Il y a de quoi rire. Daphné Burki nous présentera une gardienne de la paix qui signe son premier roman, un polar évidemment. Le débat du jour, il portera sur Dubaï, considéré par beaucoup comme un Eldorado pour trouver du travail, pour élever ses enfants ou pour payer moins d'impôts. Maintenant que son ciel se charge de drones, Dubaï peut-elle encore faire rêver? Dubaï, c'est fini, oui ou non? On en discutera vers 9h30. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Pierre Assouline, écrivain réputé, épris d'histoire et de biographie, publie Tenez bon. Un drôle de petit livre où l'on apprend que vivre est un sport de combat. Ça commence par une effroyable tempête de neige et ça finit par un vibrant appel à faire que nos vies cessent d'épouser la forme de nos renoncements. Sous couvert de convoquer les livres qui ont compté pour lui, Assouline célèbre les femmes et les hommes qui ont tenu face à l'adversité. Ces gens qui n'ont pas seulement résisté, mais qui ont fait preuve aussi d'une absolue dignité. Mais pourquoi? Pourquoi Pierre Assouline voit-il la vie comme un danger face auquel il faut se tenir droit? Portrait numéro 107. Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour Sonia.
Ça vous fait sourire? Mais pourquoi, Pierre Assouline?
Je me le demande.
Vous aussi vous le demandez? On va essayer de... Tiens bon maman, tiens bon maman. C'est oui. Cette phrase en exergue du livre. « Tiens bon, maman ». P.A. Oui. P.A. c'est vous ?
C'est moi, oui, bien sûr.
« Tiens bon, maman ».
Ben oui, elle va avoir 96 ans. Et donc, ce n'est pas facile à cet âge, même si elle tient bon.
C'est ça que vous dites à votre mère ?
Oui.
Parce qu'elle est encore là ?
Elle est encore là, je la vois tous les jours. Je vais la voir tout à l'heure, à déjeuner. Et oui, la première chose qu'elle a dite dans sa réaction à ce livre, elle m'a dit « Le titre me suffit ».
Bah, c'est magnifique.
Et parce qu'elle a du mal à lire, parce que voilà, à cet âge, on a du mal pour beaucoup de choses, alors qu'elle est très vaillante et tout. Mais elle m'a dit, voilà, c'est un titre magnifique, il me suffit, il me va, et je m'en servirai.
À l'hiver 1995, vous êtes donc en vacances en Suisse, vous êtes parti skier. Il se trouve que c'est à Crans-Montana qui, depuis, a été le lieu d'une effroyable tragédie, mais au moment où vous écrivez ce livre et où vous vivez cette histoire, c'était bien avant. Vous êtes en vacances, voilà, vous êtes un très bon skieur. Vous êtes un bon skieur. Êtes un skieur.
Je suis un skieur tout court et de ski de fond. J'aime le ski de fond, j'adore ça. Et voilà, je vais comme tous les matins. Alors non pas dans Crans-Montana même, mais tout en haut, c'est-à-dire à 3000 mètres, où il y a un glacier et avec un lac gelé et une piste de ski de fond de 18 km autour du lac gelé.
Ce lieu porte un nom.
Et oui, prédestiné, si je puis dire.
La Plaine Morte.
Plaine Morte.
La Plaine Morte à laquelle vous avez survécu.
Mais c'est-à-dire qu'en principe, on survit sans problème. Là-haut, tout se passe bien. Et il faisait beau ce jour-là, comme aujourd'hui à Paris ou sur une grande partie de la France. Un ciel bleu magnifique, tout ça. Donc, c'était il y a un certain nombre d'années. Hein, donc, il n'y avait pas de téléphone portable. Et il n'y avait pas les appareils météo très sophistiqués qu'il y a aujourd'hui là-haut. Et donc, tout s'annonçait bien, et puis, tout d'un coup, je vois quelques nuages, mais enfin, c'est rien, des nuages. Il faisait un temps magnifique, on skiait en t-shirt. Et puis, dans quelques minutes, je me suis rendu compte que la nature me jouait un tour. Parce que tout d'un coup, la plupart des skieurs avaient disparu. Parce qu'on skie sur des traces, au ski de fond. Et tout s'est assombri. Et deux ou trois minutes plus tard, on ne voyait plus rien et il n'y avait plus personne. Et là, je me suis retrouvé dans le paradis blanc chanté par Michel Berger, sauf que dans ces moments-là, on ne sait plus où est la gauche, où est la droite, il n'y a plus de points cardinaux, il n'y a plus rien.
Plus rien. Vous êtes pris dans une tempête de neige,
oui.
Une tempête de neige où l'on peut mourir.
Et surtout qui peut durer 24 heures, parce que là-bas, ça dure en général un ou deux jours.
Et dans les derniers instants où il vous reste un tout petit peu de visibilité, vous dites, je n'imaginais pas que ce blanc à l'infini puisse être une image de la terreur.
Oui, parce que le blanc, c'est la pureté. Ma référence dans mes rêves de blanc, c'est Tintin au Tibet, hein, et qui est on l'appelle l'album blanc aussi. Il n'y a pas que les Beatles, hein, parce que la couverture est blanche et c'est sur l'amitié et c'est de la pureté. Hergé était en train de la rechercher à ce moment-là. Et beaucoup de choses m'ont assailli parce que faire ? Que faire ? Je n'avais pas quand même passé un jour ou deux là, et puis surtout la nuit, et ça a duré plusieurs heures. Et puis finalement, j'ai vu un point noir, quelque part, tout au bout, et je me suis dit, il n'y a plus que ça. Et m'est revenu déjà un vers de René Char qui disait « Nous avançons vers l'inconnu, mais avec des repères éblouissants. » Ben, je me suis dit « Voilà mon repère éblouissant. » Sauf que plus j'avançais vers lui, plus il reculait comme dans les mirages. Et surtout, ben, j'avais simplement conscience que pour atteindre ce point noir très très loin, il fallait passer, traverser le lac gelé. Mmh. Et traverser un lac, c'est pas dans mes habitudes. Hein. Je marche pas sur des eaux, même si elles sont glacées. Et donc, j'y suis allé parce qu'il n'y avait pas le choix. Et il n'y avait pas de référence et qu'il n'y avait plus personne, bien entendu.
Alors, il y a ces repères géographiques, ces repères visuels, ceux qui vont vous sauver la vie. Et puis, il y a, comment dire, des repères mémoriels, des repères éthiques, des repères littéraires, des repères moraux. Ce sont ceux auxquels vous consacrez ce livre. C'est ceux qui, comment dire, c'est ce qui vous fait tenir bon. Écoutez-la.
De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait, oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne. Le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Enfin, dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre. Et la mangea.
Pierre Assouline. Pierre Assouline, comment des livres nous donnent l'espoir ? J'ouvre votre livre et je ne m'attendais pas à ce que le premier d'entre eux fût La chèvre de Monsieur Seguin.
Oui, et cette phrase, mon Dieu, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube, elle m'a permis de tenir, non pas jusqu'à l'aube, parce que je crois que j'aurais pas pu, hein, mais de tenir plusieurs heures, je ne sais même pas combien de temps. Ça m'est revenu, comme tout le monde, je n'ai pas lu, mais entendu, écouté La chèvre de Monsieur Seguin dans mon enfance, et c'est remonté. C'est remonté avec d'autres livres. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont remontées. Vous savez, quand on pense qu'on va... que c'est, comme disait Maurice Blanchot, dans L'instant de ma mort,
oui.
Eh bien, quand on a conscience de ça, on voit défiler toute sa vie, mais à travers des reflets. Et chez moi, les reflets sont souvent littéraires. C'est des images, des photographies, des tableaux. Mais
et La chèvre de Monsieur Seguin, ce n'est pas un livre de chevet, c'est une phrase de chevet, oui. Pourvu qu'elle tienne.
Oui, parce que ce que je dis dans ce livre, tenez bon, c'est que les livres m'ont aidé et ont aidé d'autres. Hein. Mais il ne faut pas se braquer sur, d'abord, toute l'œuvre d'un auteur, ni même sur tout un livre. Si on retient parfois une page, parfois un paragraphe, parfois une phrase, mais même parfois un mot dans une phrase, ça peut sauver une vie. Et moi, ça a été mon cas, parce que je suis comme tout le monde. Dans notre vie, on a parfois risqué de passer de vie à trépas pour quelque chose de domestique, d'anodin, mais ça a suffi. C'est comme une glissade dans la vie, finalement.
Et ces deux grands personnages, qui sont vos amers, presque, hein, qui sont vos repères, qui sont la chèvre de Monsieur Seguin et Job.
Pardon, vous avez dit vos amers, qu'est-ce que c'est ?
Une amère, oui. C'est quand on est en mer et que le marin voit à terre un repère visuel lui permet de se repérer dans le brouillard.
C'est un terme de marine.
Oui, c'est un terme de marine.
Oui, je ne connaissais pas.
Alors si moi j'apprends des mots à Pierre Assouline.
Bah oui, mais c'est
alors le livre technique. De Job, parce qu'il y a le livre de la chèvre de Seguin et il y a le livre de Job.
Oui, qui me tient, parce que Job, pour moi, c'est le premier résistant de l'histoire de l'humanité.
Alors, la chèvre de Monsieur Seguin, on la connaît tous. Job, on ne le connaît
Job,
pas.
Job, c'est le livre de Job, oui. Dans la Bible. Job, c'est comment dire, c'est l'homme qui ose tenir tête à l'Éternel. C'est quand même gonflé. Hein. Il lui tient tête parce qu'il l'interpelle et il lui réclame des comptes. Bon, il ne sait pas que le Satan est juste à côté de l'Éternel et qu'il essaye de le tester,
Job,
de le mettre à l'épreuve.
Job, c'était le croyant parfait.
C'est l'homme parfait parce que...
C'est l'homme exemplaire.
Exemplaire en toutes choses. Et progressivement, il perd sa femme qui le bannit, il perd ses enfants, il perd sa récolte. Et puis ses amis le bannissent du village.
Dieu
il se retrouve à l'extérieur
et le diable le mettent à l'épreuve.
Voilà, il est mis à l'épreuve, mais il ne le sait pas. Eh bien, il tient bon, il continue à interpeller l'Éternel, même quand l'Éternel lui dit « Mais tu es qui pour oser me réclamer des comptes à moi ? Qu'est-ce que tu faisais quand j'ai créé le monde ? Tu étais qui exactement ? Tu faisais quoi ?» Et il continue à résister, il tient bon. Et ça, pour moi, c'est un exemple qui m'habite depuis très longtemps. Parce que ce que j'ignorais, mais que j'ai découvert en écrivant un livre sur Job il y a longtemps, c'est que la référence à Job, elle est dans le Kaddish, la prière des morts, comme on dit, qui est une prière, en fait, de louange à Dieu. Eh bien, j'ai entendu et répété le Kaddish quand j'avais 16 ans, et j'avais ça en moi, mais je l'ignorais. Il a fallu des années et des années écrire sur Job pour le comprendre. Vous savez, un écrivain ne comprend ce qui lui arrive que lorsqu'il l'écrit.
L'écrivain que vous êtes a consacré beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres à d'autres vies que la vôtre. Ce sont vos biographies, cette famille de papiers dont vous parlez. On écoute la voix de Marcel Dassault, l'avionneur, l'inventeur du Mirage.
Eh bien, Mirage, c'est évidemment un nom qu'il fallait trouver parce que il fallait en trouver un. Je ne pouvais pas le rechercher dans la bibliothèque rose. Alors, j'ai pensé à Mirage, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de presque impossible, qui recule quand on approche la main. C'est en même temps quelque chose d'un peu merveilleux, comme un conte de fées, et c'est un mirage qui s'est réalisé.
Je ne pouvais pas trouver le nom du mirage dans la bibliothèque rose. C'est formidable. Non,
c'est la grandeur de Marcel Dassault.
De Marcel Dassault, de Gaston Gallimard, du découvreur des cubistes Daniel-Henri Kahnweiler, du photographe Henri Cartier-Bresson, du grand reporter Albert Londres, du marchand des impressionnistes Paul Durand-Ruel. Ça, c'est votre famille de papier. Ce sont ces hommes à qui vous avez consacré des livres. Et vous dites, voilà, chacun à leur manière, ils ont tenu bon. Et c'est ça qui est intéressant dans votre texte, Pierre Assouline, c'est que tenir bon, ça n'est pas ne rien lâcher. Tenir bon, non. C'est se tenir droit. C'est se tenir droit face à l'existence. C'est une sorte de rapport moral à la vie. Et c'est une manière de creuser son sillon. C'est ce qu'ils ont fait chacun.
Chez les hommes que vous avez cités, c'est ça qui m'a frappé. C'est que ce soit Cartier-Bresson ou Kahnweiler, par exemple, très jeunes, ils ont une certaine idée, l'un de la photographie, l'autre de la peinture, et ils s'y sont tenus toute leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont figés pour autant dans un schéma trop rigide, ça veut dire que, à force de creuser le même sillon, on arrive à des résultats probants. Je veux dire que, par là, ils ne papillonnent pas autour d'une idée, ils ne sont pas sensibles à l'air du temps.
Alors je me suis posé la question, parce qu'ils ne sont pas dans cette famille de papier que vous citez, Pierre Assouline, dans le livre, pourquoi aimer Céline ? Pourquoi s'intéresser à Raoul Girardet, qui a été un temps proche de l'OAS ? Pourquoi s'intéresser à Jean Jardin, éminence de Vichy, ami de Laval et de Pétain, dont vous avez écrit la biographie ? Pourquoi sympathiser avec un ancien collabo, Lucien Combel ? Ces gens, est-ce qu'ils ont tenu bon ? Non !
Ici, parce qu'ils ont été au bout de leurs idées et parfois de leur utopie. Mais quand vous dites pourquoi, j'ai une petite explication. En France, il n'y a que les Juifs pour s'intéresser aux antisémites. mais vraiment, bien que je n'essentialise pas les noms que vous avez cités comme tels, ils ne se résument pas à ça. De toute façon, l'antisémitisme, depuis longtemps, est tellement diffusé dans la société que ça ne distingue pas quelqu'un par rapport à un autre. Mais vous dites pourquoi aimer Céline ? Parce que c'est un grand écrivain. Je veux dire, j'aime pas Céline pour Céline.
Céline est un monstre d'antisémitisme.
Oui, mais ça a atteint un tel délire que pour moi, c'est beaucoup moins grave, si je puis dire, que l'antisémitisme d'un Paul Morand, qui n'est pas du tout dans le délire, qui est dans la raison.
Absolument.
Mais c'est beaucoup plus grave, ça. Ou l'antisémitisme
Paul
mondain.
Paul Morand qui revient à la mode, mais alors...
Oui, mais ça reste un écrivain exceptionnel, un styliste étincelant, et sur le plan humain, pour moi, une crapule.
Lorsqu'un ami voit partir son père à jamais, j'ai pour habitude de lui offrir l'invention de la solitude de Paul Auster. Tout y est essentiel. Tout de ce qui ne peut être dit, j'imagine, d'un ami à un ami, cela ne console pas, puisque rien ne console, car rien ne remplace, mais ça aide à supporter l'absence, ce qu'elle a d'irrémédiable, écrivez-vous. Voilà, quand un ami perd son père, vous lui offrez d'abord un livre.
Oui, beaucoup de choses passent par les livres, pas tout, mais pour moi, mais beaucoup de choses, parce que l'invention de la solitude de Paul Auster m'a un petit peu consolé, que j'ai trouvé sur mon chemin à un moment où j'en avais besoin.
Quand vous avez perdu votre
Quand
père
Quand j'ai perdu mon père, qui est mort jeune, à 67 ans, et j'en avais 38. Oui, ça m'a tenu. Mais vous savez, je retiens un mot, par exemple, j'y consacre des pages et des pages, d'un poème de Paul Celan. Stehen. Stehen, c'est de l'allemand. Ça signifie tenir, au sens de tenir bon dans l'adversité. Ça signifie aussi se tenir, rester digne dans l'adversité. Et ça signifie enfin résister. Il y a tout ça dans ce petit mot-là, mais qui est d'une densité explosive. Et voilà, moi j'engage...
Et vous convoquez les grands résistants. Vous convoquez
Bien
Jean
sûr.
Moulin. Vous convoquez
Simone Veil,
qui a tenu, qui a résisté, qui a tenu. Mais je me suis posé la question, moi, si en filigrane, la colonne vertébrale de ce livre, ça n'était pas la figure de votre père absent, de votre père qui est mort il y a longtemps, que vous n'évoquez que par toute petite touche. Mais si, au fond, il n'était pas là, le surmoi, la loi, vous qui avez un rapport très profond, à la loi.
Oui, parce que dans le judaïsme, on ne vous demande pas si vous croyez en Dieu ou pas. On vous demande d'appliquer la loi, de la respecter. Et on en déduit, si vous le faites, que votre identité juive est assez forte ou pas. C'est mon cas, bien sûr. Même si elle n'est pas, on ne peut pas m'essentialiser avec ça, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a tout le reste. Et d'ailleurs, on le voit bien dans ce livre, je me considère comme un passeur, hein, comme j'enseigne aussi par ailleurs. Pour moi, c'est une activité de passeur. Recevoir, célébrer, transmettre. Ben, ce triptyque, c'est ça qui dirige ma vie. Et ce que j'ai reçu, j'ai eu la chance de recevoir un certain nombre de choses et de le célébrer par la littérature et par une quarantaine de livres. Eh bien, je trouve que c'est la moindre des choses de le transmettre. Et ce livre tenait bon, c'est un livre de transmission.
Qu'est-ce que vous avez reçu de votre père ?
J'ai reçu une éducation. J'ai reçu une éducation des principes moraux et des valeurs et un respect infini de la République française. J'en imagine pas, mais les Juifs d'Algérie, quand ils sont devenus français, ils ont voué un culte quasiment religieux, oui,
le décret
en 1871, un culte quasiment religieux à la République française. Et ça a toujours été le cas. Et j'ai retrouvé ça, par exemple...
Mais ça a été la première mesure de Vichy.
Ben oui, de les bannir de la République.
Oui.
De toute façon, la République elle-même était bannie,
oui.
Mais il n'était plus français. Mais j'ai retrouvé ce sentiment, cette force-là, dans un livre que j'ai publié il y a quelques années, qui s'intitule « Le nageur » sur Alfred Nakache. Et dans la famille d'Alfred Nakache, qui était de Constantine, eh bien, il a toujours dit, moi, il y a deux piliers dans ma vie, il y a le judaïsme et il y a la République. Ce sont mes deux religions transmises par mon père. C'est toujours le rôle du père qui est très important, même si la mère est toujours là, fondamentale. Eh bien, ce sentiment de républicain, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe depuis plusieurs années, en France, en Europe et dans le monde, s'il y a bien une chose pour laquelle il faut se battre aujourd'hui en France, ce sont des valeurs républicaines qui traitent intransigeants avec un certain nombre de principes et de valeurs.
Pierre Assouline, de l'Académie Goncourt. Tenez bon, comment des livres nous donnent de l'espoir, ça paraît chez Robert Laffont, c'est un petit livre à mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup.
Merci.
Pierre Assouline.
sur l'écran noir de mes nuits blanches. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras.
Radio Nostalgie, bonjour.
Non, pas Radio Nostalgie, Nougaro, chef d'œuvre absolu. Vous allez l'avoir dans la tête toute la journée, et moi aussi, c'est le cinéma, et c'était 1966. C'était une musique de Michel Legrand. Nananananer.
66 quand même.
Allez, vous êtes dans la grande matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. Faire de la politique quand on est artiste, c'est rarement une bonne idée. Mais pour les candidats municipal, politiser la culture, c'est un projet passé trop inaperçu à mon goût.
C'est ça.
On n'est pas à l'abri de se régaler à 9h45.
Et Daphné Burki, bonjour.
Salut, ma nouvelle tête à 9h50 s'appelle May Lepage. Elle mène une double vie. Elle est gardienne de la paix et elle vient d'écrire un thriller qui est en train de devenir un phénomène. Il faut absolument que je vous la présente.
Ah bah voyons, il est 9h30 et c'est l'heure du débat du jour sur France Inter.
Des appartements en feu dans cet immeuble résidentiel et chic de Dubaï. Un drone iranien vient de s'encastrer dans la façade. La panique, l'effroi des habitants, leur course pour se mettre à l'abri.
Oh my God, oh my God.
Voilà ce qui s'est abattu sur Dubaï ces derniers jours. Dubaï considéré comme beaucoup comme une oasis, comme un Eldorado pour trouver du travail, pour élever ses enfants, pour payer moins d'impôts pour certains. Maintenant que son ciel se charge de drones, Dubaï peut-elle encore faire rêver ? Dubaï, c'est fini, oui ou non ? On en discute ce matin.
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Bonjour à tous les deux. Alors, j'ai avec moi... Pardonnez-moi, j'ai perdu ma feuille. Je vous laisse vous présenter le temps que je retrouve ma feuille.
Camille Lons.
Voilà.
Directrice adjointe du bureau de Paris de l'ECFR.
Voilà.
Et Alexandre Caseroni, politologue et maître de conférences à l'ENS en études arabes et iraniennes.
Voilà, ça y est, j'ai ma feuille sous les yeux, du coup je n'avais plus vos titres. Donc, est-ce qu'on peut parler, on va peut-être commencer avec vous Camille Lons, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de retour au réel? On avait fini par croire, Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, qu'il ne se trouvait pas ces lieux au Moyen-Orient. On avait fini par croire à des havres de paix, à des lieux placés sous cloche, d'une certaine manière, loin des conflits, en réalité, qui minent cette région depuis un quart de siècle. Est-ce que c'est une manière d'ouvrir les yeux, de manière un peu brutale, Camille Lons?
On peut dire ça, en effet. Enfin, c'est-à-dire que les Émirats ont toujours essayé, surtout ces dernières années, de s'extraire du Moyen-Orient. Moyen-Orient finalement, de projeter leurs relations avec le reste du monde, de se positionner comme un hub de connectivité avec l'Asie, avec l'Afrique, avec l'Europe, comme s'ils étaient plus au Moyen-Orient finalement, et d'essayer de s'extraire un petit peu de cette politique moyen-orientale qui les entourait. Et finalement, on voit qu'ils ne peuvent pas s'extraire parce que géographiquement, ils sont au cœur du Moyen-Orient.
Il y a une forme de soft power, c'est-à-dire de récits destinés à inonder la planète, une forme d'irréalité avec les gratte-ciels, le luxe, la consommation à gogo, Camille Lons.
Oui, bien sûr, et c'est un narratif qui a très bien marché et qui a permis d'attirer toute une population, pas que des pays occidentaux, mais surtout en fait de toute l'Asie. Il y a énormément de, il y a une grosse population qui vient d'Asie du Sud, du Sud-Est, de plus en plus d'Afrique aussi, de gens qui n'ont peut-être pas aussi autant d'opportunités économiques dans leur pays d'origine et qui viennent à Dubaï pour trouver du travail et se développer. Donc ça a été un élément très fort de la soft power de Dubaï.
Néanmoins, Alexandre Caseroni, vous dites on se trompe sur Dubaï. C'est-à-dire que oui, ce soft power et ce narratif, ils fonctionnent. La réalité économique de Dubaï, elle repose ni sur le tourisme, ni sur le luxe, ni sur le shopping.
Oui, la réalité, la dorsale, c'est le commerce d'entrepôt. C'est j'importe, je réexporte. Et la principale destination de réexportation dans les années 80 et 90, celle qui a permis de décoller économiquement, c'est la République islamique d'Iran. Et ce n'est que vers 2010 qu'il y a eu une diversification poussée en direction de l'Arabie Saoudite et des pays environnants. Mais en fait, Dubaï, c'est très différent d'Abu Dhabi et du Qatar, qui eux, effectivement, ont essayé de construire une image derrière laquelle se déroulaient d'autres dynamiques, en particulier militaires. C'est ce que j'ai appelé, moi, le miroir des cheikhs. Mais en fait, ce miroir, cet écran, n'a pas existé à Dubaï. Dubaï, il y a un développement organique lié au port et à l'aéroport. Et ce développement de l'aéroport et du port ont un lien ombilical à l'Iran.
À l'Iran. Alors ça, on va en reparler dans un instant et vous allez nous l'expliquer. Camille Lons, il faut rappeler que Dubaï est sorti de terre très 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 récemment en réalité.
C'est ça, en effet. C'est-à-dire que à l'origine, Dubaï a très peu de réserves pétrolières, ou elles ont le peu de réserves pétrolières qui ont été trouvées, elles ont été trouvées sur le tard. C'est plutôt à Abu Dhabi justement qu'il y a les réserves pétrolières. Et il y avait du coup jusqu'à très tard très peu de population locale à Dubaï. C'était une migration saisonnière de pêcheurs de perles qui venaient un moment dans l'année pour les perles. Mais donc le Dubaï, il y avait ça repose sur très peu de choses en réalité.
Et donc Dubaï, c'est une population essentiellement d'expatriés.
Et aujourd'hui, c'est devenu une population d'expatriés parce qu'il y a eu tout un développement en effet très autour du port de Jebel Ali et donc de cette connectivité avec le reste du monde. Et maintenant, c'est plus de 90% de la population.
Plus de 90%. Donc en cas de crise, puisque la question ce matin, c'est est-ce qu'on va encore rêver à Dubaï? Est-ce que Dubaï va rester un Eldorado? En cas de crise, comme il se passe là aujourd'hui, c'est une population qui peut s'évaporer très vite parce que c'est une population qui n'a pas de racines, pas d'histoire.
C'est le risque, en effet. Et surtout que les pays du Golfe, de manière générale, pas juste Dubaï, ont un système qui est le système de la kafala, c'est-à-dire pour avoir un visa, pour pouvoir vivre dans le Golfe, il faut être sponsorisé par son employeur. Et c'est des pays où c'est très difficile d'avoir la nationalité du pays. On n'obtient pas la nationalité émirienne facilement. Et donc, il y a vraiment une séparation entre la population émirienne qui est toute petite et une population expatriée qui est des fois là depuis plusieurs générations, mais qui n'a jamais la nationalité, qui n'a pas les mêmes droits et qui, du coup, n'a pas le même attachement national, identitaire qu'on peut
donc
avoir.
Donc vous dites qu'il y aura un avant après la crise qu'on vit actuellement.
Je pense. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'autres options que Dubaï région. Donc, les gens ne vont pas se volatiliser du jour au lendemain. Mais en effet, il y aura un avant et un après.
Il y aura un avant, un après. Alexandre Caseroni, vous pensez que, contrairement à ce qu'on imagine, les Européens sont quand même assez peu représentés à Dubaï et qu'il y a toute une autre population qui a et qui correspond sa présence à Dubaï à une réalité économique profonde, très structurelle, et qu'il n'y aura pas un avant, un après la crise. Après la crise, en réalité, ça va continuer.
Aux Émirats Arabes Unis, il y a à peu près 10 millions de personnes qui vivent dans cet État fédéral. Il y a 10% qui ont la nationalité émirienne, donc à peu près 1 million. Mais dans les 4...
Seulement 10%.
Seulement 10%. Mais c'est déjà quelque chose, vous voyez, il ne faut pas négliger l'existence de ces individus, qui sont les citoyens, en fait, de ces Émirats. Et les 90%,
oui,
c'est pour l'essentiel des populations extra-européennes, et en particulier du sous-continent indien.
D'accord.
Et ces populations, par exemple, ceux qui viennent du Pakistan, ils ont un autre rapport à la guerre que des Européens, en particulier des Européens de l'Ouest. Ensuite, pour les Occidentaux, entre guillemets...
C'est intéressant, hein ? C'est-à-dire que peut-être que nous, Européens, on n'a pas tout à fait le bon regard, les bonnes lunettes sur Dubaï, c'est ce que vous suggérez ?
Je pense que le rapport au risque n'est pas le même pour cette minorité très réduite hein, d'Européens de l'Ouest et de Nord-Américains qui sont allés là-bas et qui surtout ont trouvé un lieu où vivre en famille... pour traiter avec les pays alentours. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sièges internationaux des multinationales qui se sont installés à Dubaï fin des années 90 pour le début de la mondialisation économique, mais pour que l'époux, le mari, aille travailler en Iran et en Arabie Saoudite. Alors pour ces gens, oui, peut-être que venir en famille, ça va changer. Mais ils représentent une part infime.
Infime.
Et pour ceux qui... par exemple, il y a beaucoup d'Iraniens aux Émirats Arabes Unis, il y a beaucoup de Libanais. Et en fait, ce sont des personnes qui ont un autre rapport à la conflictualité que des Européens. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si ça va vider Dubaï, on verra.
Non, la question n'est pas est-ce que ça va vider Dubaï, mais est-ce que ça va rester comme un Eldorado, un pays qui attire, une ville-monde qui attire. La vraie question aujourd'hui, puisque vous dites en réalité le cœur de Dubaï, c'est son port, c'est peut-être l'avenir du détroit d'Hormuz. Est-ce que vous voulez bien expliquer ce que c'est que le détroit d'Hormuz et pourquoi il est clé dans l'avenir de Dubaï ?
Alors, comme je dis, le port est fondamental.
Mmh.
Effectivement, si le détroit est fermé, l'activité portuaire est à l'arrêt, extrêmement réduite.
Ouais.
Alors pour l'heure, le détroit n'est pas fermé. Les Iraniens décident qui entre et qui sort.
Mmh.
Mais évidemment, ça a un impact sur l'assurance des bateaux. La question, c'est est-ce que ce détroit peut rester indéfiniment fermé ? Je ne le pense pas.
Mmh.
Donc, c'est ça la question pour Dubaï. C'est combien de temps Dubaï peut en fait tenir en attendant que ce détroit s'ouvre à nouveau ? Sachant que beaucoup de marchandises aussi qui sont importées à Dubaï pour être exportées, c'est pour le marché iranien.
Mmh.
Alors, pourquoi l'Iran, c'est si intéressant pour Dubaï ?
C'est
ça. Parce qu'en fait, avec le Nigeria, ce sont les deux pays pétroliers importants.
Oui.
À avoir une grosse masse démographique, donc un marché intérieur.
Mmh.
Et c'est pour ça que la République islamique d'Iran, économiquement, elle tient la route. C'est parce qu'elle a pu compenser les sanctions par l'existence d'une activité économique interne, d'un marché de consommation immense. Ce dont ne bénéficiaient pas jusqu'à très récemment les États de la péninsule arabique. Et récemment, l'Arabie saoudite a eu une explosion démographique. Donc maintenant, il y a 30 millions d'habitants en Arabie. Donc eux aussi, ils cherchent à développer cet atout économique. Mais jusqu'à ces 10 dernières années, il y avait l'Iran qui avait cette ressource.
Mm-hmm. Camille Lons, sur l'avenir de Dubaï, l'avenir économique de Dubaï, c'est-à-dire qu'il y a le narratif hein, dont vous parliez très bien, il y a cette population qu'on peut estimer quand même volatile parce qu'elle n'a pas ses racines, parce qu'elle n'a même pas la nationalité à Dubaï, et puis il y a la réalité économique de cette région. Est-ce que pour vous, elle va rester attractive quoi qu'il arrive ?
Alors encore une fois, c'est tout est nuancé.
Oui,
il y a des infrastructures à Dubaï très importantes. Enfin, toutes les entreprises vont pas partir du jour au lendemain. Il n'y a pas énormément dans la région d'autres opportunités. Ça va être intéressant de voir la dynamique entre, par exemple, l'Arabie Saoudite et les Émirats aussi. Il y a une grosse, avec la montée de l'Arabie Saoudite, une grosse compétition entre ces deux pays-là et Riyad qui essaye d'attirer une partie de ces entreprises internationales. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va jouer, par exemple.
Est-ce qu'on va redistribuer les cartes? Entre ces différents
Eldorados. Ça va être intéressant de voir, vu que Dubaï est pour l'instant beaucoup plus touché que l'Arabie Saoudite. Mais de manière générale, en effet, ça peut avoir un effet quand même de long terme, et c'est ça qui va être intéressant de voir, comment le port de Jebel Ali va évoluer dans le futur. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin de fermer complètement le détroit d'Hormuz, il suffit que de temps en temps, l'Iran fasse des frappes sur des navires qui passent dans le détroit, et ça suffit en fait
à bloquer le trafic maritime.
C'est un peu ce qui se passe dans la mer Rouge déjà, il suffit de quelques attaques pour faire exploser les prix des assurances et que, du coup, les armateurs se posent la question de est-ce que c'est toujours intéressant ou pas de passer par là.
Alexandre Caseroni, pourquoi, en fait, l'Iran a intérêt à frapper Dubaï ?
Pour faire pression.
C'est ça.
Pour faire pression.
Parce qu'en réalité, il n'y a pas non plus vraiment d'objectif militaire à Dubaï.
Non, Dubaï, en fait, n'a pas du tout adopté la stratégie d'Abu Dhabi. L'installation de bases militaires, c'est le choix d'Abu Dhabi. Et en fait, ce qui a, du point de vue iranien, légitimé ces bombardements, c'est l'hébergement de toutes ces bases militaires ces États.
C'est ça.
Mais à Dubaï, il y a également deux hôtels qui ont été touchés. On ne sait pas encore exactement certains par des débris, mais est-ce qu'ils ont été ciblés ? Ça, c'est l'avenir qui l'expliquera. Mais Dubaï, c'est un moyen de pression très fort. La preuve, toutes ces émissions, tous ces articles.
C'est ça.
C'est-à-dire que le reste
donc en termes d'image,
le reste du monde s'est approprié Dubaï. Mais je voudrais rebondir sur un point, la question de l'Arabie Saoudite, si on a le temps. On a le temps.
C'est la conclusion.
Et en fait, cette guerre, c'est aussi une guerre entre les grands États et les petits États. Pas seulement à l'échelle d'Iran et d'Israël. C'est-à-dire, est-ce que ce Moyen-Orient repose sur les grandes entités étatiques ou sur, finalement, tous ces émirats? Et on peut considérer qu'Israël aussi, c'est un émirat dans le langage géographique et politique islamique, enfin, du monde islamique. Et l'Arabie Saoudite, en fait, c'est un grand rival aujourd'hui de ces principautés et cherche effectivement à attirer à elle tous ces sièges de multinationales qui s'étaient installés à sa frontière.
Camillons, c'est ça. Et ben, je vous remercie tous les deux, Alexandre Cazeroni, Camille Lons. Merci de nous avoir éclairés, de nous avoir donné quelques outils, puisque Dubaï, c'est fini. Dubaï ne mourra jamais. On avait besoin de quelques billes pour comprendre ce débat. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous dans un instant. Charline Vanhoenacker, Daphné Burki. Check 1, 2.
Come on, check 1, 2. Check 1, 2. It's a Thursday and I left my blues in the back of the second drawer in my nightstand. I'm too busy giving sounds, paprika, your taste. My, oh, ja, I'm so high, listening to Primo Vision. I add a whole woman of grace in every color, every spectral prism. Yeah, go ahead and say that twice. Every bar that I spit is from living the life. She nice. You think I don't see it? My glow shines from the solar plex of my being. She sweet and she tough. I could give you my all, but is it ever enough? They say chatting about my body on IG. Say I'm a mean bitch, I'm an Illuminati. But ain't nowhere near around here. When I write these songs, when I light my spliff, when I raise my son, atone for my sins, when I stack my papes, when I deal with these men, none of them could ever be me. J-I-L-L-S-C-O-T-T. In the place to be, North Philly, baby.
It's a Thursday and I left my blues in the backseat of an Uber. Hollywood, a hallelujah. I've been seeing right through you. These bars are nasty while I'm spitting them out. And once I tell you my price, won't take no different amounts. Okay, I think I finally figured it out. I am the greatest, always in the latest, like Lauren. So pardon my arson. I don't bargain with peasants, pleasant surprise. Rapping better than you guys. Despise me, you should let me be your guide. I'm high. Loaded like potatoes, so poppy like mayo on a hoagie. You imposter rigatoni. The top is lonely, but I never feel alone. After all this time, they done made so many clones. The almighty. I'm winning cause God likes me. Most likely, surviving with a shiesty. Turn me to a maximum. White men, I'm stacking them. Living like it's gold in me and Sheila go platinum. Pray and obey to the WHEK, I'm here to stay.
North Philly all day.
What is the consequence of being this dope?
I let them tell us, get after what they want. Some sit jealous and talk shit. Ain't got a pot to piss. They be pissed, ain't love like this.
True.
And that's so true. Billy Jilly is lethal. The only masses they be trying to build a queen in doom. Can't be rich and cold, I can't be fly and smooth. I cuts with the syllables, linguistically audible. Give real to intelligent freaks. I wax poetical, inevitable. I transform into me. Jill Scott, Grand Time, Queen Beast.
North Philly, baby.
North Side. Jill Scott et Tierra Whack. La grande Jill Scott sera en concert en France cet automne. Rendez-vous le 9 octobre au Zénith de Paris. 9h46 sur France Inter. Charline Vanhoenacker. Charline, Paris est la capitale des arts et la ville de France la plus privilégiée en matière culturelle. Alors, que proposent les candidats à Paris pour être à la hauteur de ce privilège ?
Eh bien, c'est le Journal des Arts qui nous apprend que les projets des candidats se radicalisent.
Ah.
L'art devient un outil identitaire chez les uns, un pur moteur économique chez les autres. Exemple, début février, Rachida Dati a proposé de devenir commissaire d'exposition au musée Carnavalet pour remplacer les thématiques sociales par une exposition permanente dédiée à l'élégance parisienne et au luxe. Oh. Elle a clairement prévu de faire du musée Carnavalet une extension de son dressing. Idem au 104, au lieu culturel de la mixité, mais inutilement militant, dit-elle. Il devrait être consacré au spectacle plus accessible et populaire. Pourquoi pas ? Elle a chiffré aucune de ses propositions culturelles. Bon, après, on la connaît, elle est comme ça, Rachida. Dès qu'il s'agit de patrimoine, elle a du mal avec les chiffres. Tout cela n'enlève rien au fait que Rachida Dati a déjà fait beaucoup pour la culture, notamment le jour où elle a démissionné du ministère. Le journal des Arts nous raconte aussi ce qu'on va rater en ayant éliminé le RN au premier tour. L'extrême droite a proposé de créer un pool d'accordéonistes et de tourneurs d'orgue de barbarie qui circuleront dans les rues. C'est écrit là, je vous l'ai amené. Une troupe d'accordéonistes, ça existe déjà, ça s'appelle la ligne 6 du métro à la station Tour Eiffel. Hein. Mais oui, mais si. Mais déjà, quand tu mets le mot pool et le mot accordéoniste dans la même phrase, Daphné, à tout moment, après, tu dois te créer la task force du Bignou.
Il y a une bonne
ambiance. Hein, après un brainstorming sur la bourrée auvergnate. Bah, sinon, le projet ne va pas au bout, enfin. Écoutez.
La task force du Bignou.
Sarah Knafou est plus ambitieuse, elle propose d'organiser une exposition universelle à Paris et de faire passer son idée par référendum. Donc les Parisiens iront voter pour répondre à deux questions. Petit 1, voulez-vous virer tous les étrangers de Paris ? Petit 2, voulez-vous faire revenir les étrangers à Paris pour tenir un stand ? Mais juste après, on refait comme à la question 1. La France Insoumise, elle, propose de rendre la culture au peuple en recréant une MJC par arrondissement. Par exemple, dans le premier arrondissement, la MJC s'appellera la MJC Jean-Luc Mélenchon. Dans le deuxième arrondissement, ce sera la MJC Jean-Luc Mélenchon. Dans le troisième, la MJC Jean-Luc Mélenchon. Dans le quatrième arrondissement, le...
Non, ça va, tu vas pas faire les 20 arrondissements. J'ai une interview derrière, Charline, s'il te plaît. Vas-y.
Quel mépris pour la culture, Daphné, quel mépris. Pierre-Yves Bournazel propose, lui, la mise en place d'une comptabilité analytique obligatoire par musée et par exposition. Et c'est là qu'on sent poindre la fibre artistique de Pierre-Yves. Vous voyez, hein, désolé Rembrandt, t'as pas atteint tes objectifs ce mois-ci. On va faire un turnover avec Monet, le temps de réguler la compta, d'optimiser le cash flow. Tu vois. Il propose aussi la création d'un centre d'art LGBTQIA+, tandis qu'Emmanuel Grégoire envisage un musée des arts et des cultures féministes. Donc chaque candidat veut faire de la culture une vitrine pour ses idées, en fait. On est en pleine appropriation culturelle de la culture elle-même. Vous me suivez, Sonia, vous me suivez. Donc je pense qu'à ce stade, d'entre deux tours, c'est mon petit conseil de service public, pour décrocher une subvention, faut tout miser sur un compromis qui propose à des intermittents non genrés de jouer de l'accordéon dans la rue de Paris. Mais c'est mon conseil.
À la MJC, bien entendu. À la MJC. Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Allez, Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Mais moi, j'adore l'accordéon. Il est 9h50, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ma nouvelle tête ce matin s'appelle May Lepage. Elle est l'autrice d'un premier thriller et gardienne de la paix. Elle est flic. Le matin, elle enfile l'uniforme de policière. Le soir, elle écrit un thriller psychologique qui sera déjà traduit dans une dizaine de langues. Deux métiers qui demandent peut-être finalement la même chose, savoir regarder la violence en face. Ça tombe bien, son roman s'appelle « Sécher tes larmes ». Il est publié chez Verso, au Seuil. Bonjour May Lepage, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bah, merci d'avoir accepté et d'avoir trouvé l'autorisation de venir surtout.
Oui, c'est vrai, c'est très intimidant pour moi, mais merci. Bah,
c'est votre première interview, puis c'était pas évident de quitter le commissariat, donc merci. Vous menez une double vie, je le disais. Vous entrez dans le commissariat le matin et vous vous asseyez devant cette page blanche le soir. Est-ce que c'est la même personne qui agit ?
Oui, je pense que c'est peut-être deux parties de moi, mais quand je suis au travail en police, je pense pas trop à mon livre. Voilà, je fais mon travail sérieusement et je pense pas à ça. Et je pense que c'est une question d'équilibre, parce que j'ai besoin de vivre des choses parfois fortes et ancrées dans le réel pour pouvoir ensuite les coucher sur le papier et être plus dans ma tête.
Vous êtes ma nouvelle tête aujourd'hui parce que votre parcours, il m'a impressionnée quand même. Je vais être honnête avec les auditeurs, je vais tout leur dire. Avant d'entrer dans la police, elle a eu une première vie, Sonia, Charline. Après 5 ans d'études, elle travaillait dans des studios d'animation parisiens. Qu'est-ce qui s'est passé pour quitter ce métier créatif et que vous dites « Non, il faut que je rentre dans la police nationale, c'est ça qu'il faut que je fasse ».
C'est vrai que je faisais partie de ces personnes qui n'ont jamais remis en question leur orientation professionnelle. J'ai toujours pensé que je ferais du dessin toute ma vie. J'ai fait 5 ans d'études là-dedans, ensuite 3 ans à Paris. Je faisais les décors dans les dessins animés. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce quotidien ne me correspondait pas du point de vue voilà, très pratique. Le bureau, ce n'était pas pour moi. Et gros manque de sens aussi par rapport à ce qui se passait dehors, ce que je voyais dans ma vie de tous les jours, aux actualités. Donc j'ai voulu prendre part un petit peu au roi judiciaire. Donc au début, je me suis dit pourquoi pas tenter le droit. Et puis finalement, je voulais vraiment ce truc d'adrénaline et puis où il n'y a pas de quotidien. Donc c'est pour ça que en faisant une introspection un petit peu, je me suis rendu compte que la police, ça pouvait me correspondre. Donc j'ai tout plaqué en prenant le risque de recommencer à zéro dans un milieu qui, en fait, m'était totalement étranger.
Et donc c'est parti, vous êtes sur le terrain. Vous dessinez encore aujourd'hui ?
J'ai pas retouché un crayon depuis que j'ai quitté le dessin.
Ok, dingue.
Bon, alors en tout cas, vous continuez à raconter des histoires, et des histoires qui remportent déjà un succès incroyable. On va raconter ce livre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été enlevée pour la deuxième fois de sa vie, dans la même ville, avec le même mode opératoire. Et pour résoudre cette affaire, on appelle une enquêtrice qui avait juré de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville, Annemasse, ville dans laquelle vous travaillez dans la vraie vie, Maëlle Lepage. 7 ans plus tard, elle disparaît donc à nouveau. La première fois, elle avait été séquestrée et violée. L'extrait que vous allez nous lire se situe dans les premières pages du roman. On est du côté de la victime. Après son kidnapping, son ravisseur descend dans la pièce où il la retient et on ne connaît toujours pas son identité. Je vous propose de lire cet extrait.
Pour la première fois, tu es descendu dans la cage. Je me suis levée, j'ai retenu mon souffle et je me suis collée dans un renfoncement. Ça a tangué. Je me suis rattrapée de justesse. Tu empestais le parfum. Cette odeur que j'affectionnais tant, avant, m'écœurait à présent. Il y avait quelque chose de différent. Un infime changement dans la manière dont il se mêlait à ta peau, quelque chose de pourri qui empoisonnait toutes les notes. J'ai deviné que tu tenais un seau d'eau à la main. Tu l'as déposé au sol. Ça sentait fort la rose. Tu es restée plantée là, longtemps. Tu ne voulais toujours pas parler, sûrement pour éviter que je reconnaisse le son de ta voix, mais j'ai très bien compris ce que tu voulais. Alors que je demeurais figée, tu t'es rapproché encore de quelques centimètres jusqu'à ce que je puisse sentir ta chaleur corporelle. J'ai eu un haut-le-cœur. Vite, pensez à la petite grille en haut à droite. Me concentrer sur les vertiges, causés par la faim, perdre tous mes repères, prier pour que mon état second m'aide à tout oublier.
Et on va s'arrêter là. Bon, je vous dis, c'est très compliqué d'arrêter de tourner les pages. Et moi qui ne suis pas du tout thriller, il est sombre, il est troublant hein, ce thriller. Et quand on connaît votre parcours, on est super troublé quand on le lit. Il se déroule donc à Annemasse, en Haute-Savoie, une ville que vous connaissez très bien. Vous patrouillez en ce moment dans ces coins-là. Vous y parlez notamment de stress post-traumatique, de l'injustice aussi que ressentent les victimes quand une affaire n'est pas résolue. Vous avez changé de vie pour devenir gardienne de la paix, alors que votre carrière, elle était toute tracée. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce roman, Maëlle Lepage ?
Alors déjà, petite précision, je ne travaille plus à Annemasse actuellement. J'ai quitté Annemasse en septembre et là, je suis à Lyon, dans un poste de terrain similaire. Après, ce qu'il y a de moi dans le roman, tout vient forcément de mon esprit, donc c'est forcément certaines de mes pensées qui ont été retranscrites. Mais il y a vraiment une distinction entre l'auteur et le personnage et le narrateur. Et de toute façon, je ne peux pas dire des choses qui se passent dans ma vraie vie de policière, parce que j'ai un secret professionnel.
Mais c'est déstabilisant, parce que dans ce roman, tout le monde finit par franchir la ligne morale, les policiers, les victimes, les parents. Personne n'est totalement innocent. Donc dans votre travail de policière, est-ce que vous vous êtes confrontée tous les jours à cette zone grise de la justice ?
Oui, exactement. C'était un truc qui m'intéressait beaucoup dans ce roman. C'est qu'on voit, par le quotidien de policiers, des gens qui sont confrontés à des situations extrêmes, que ce soit des auteurs ou des victimes, et qui, au bout du compte, viennent parfois faire des choses qui peuvent paraître immorales, mais quand on comprend ce qu'elles ont traversé, on leur donne parfois raison. Et c'est sur ça que je voulais mettre l'accent dans ce roman.
Vous êtes tenue au secret professionnel, mais vous racontez quand même une grande part de vérité, tout est très...
Alors les procédures se veulent réalistes, forcément je fais passer la fiction avant le réalisme de la procédure pénale parce qu'on s'ennuierait beaucoup sinon, mais tout est fictif, tout est inventé, il n'y a pas de personnage existant. La ville par contre est la vraie ville dans laquelle j'ai patrouillé et que je connais assez bien, mais autrement voilà.
Ouais. Je vous ai demandé quel film, quel son vous définissiez le mieux en ce moment. Et vous m'avez répondu « Drive » de Nicolas Winding Refn. Alors je le rappelle, c'est un film où ce personnage est très silencieux. Il mène lui aussi une double vie entre violence et solitude. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pourquoi vous vous reconnaissez dans ce film ou dans cette ambiance ?
Bah justement pour ce que vous venez de dire, enfin pour ce que tu viens de dire, pardon, c'est un personnage qui a un passé sombre et qui cherche à se battre contre ce qu'il est en essayant d'aimer quelqu'un et puis d'avoir une vie calme mais qui n'y arrive pas et qui lutte entre ses doubles vies et c'est quelque chose que je ressens aussi parfois.
Quand je vous ai demandé votre première fois artistique, vous m'avez raconté à 7 ou 8 ans, vous aviez déjà écrit une bande dessinée, elle faisait 80 pages. Aujourd'hui, votre premier roman sera publié dans 10 pays.
On rappelle qu'elle est flic, hein. En plus, voilà. Elle tape à deux doigts.
Alors du coup, non, je tape rapidement. L'expérience maintenant.
Votre enquêtrice, elle s'appelle Emma Fauvel. Elle va avoir une suite, clairement, Emma Fauvel. Finalement, ça vous réussit bien ces premières fois.
Oui, c'est beaucoup de travail aussi. J'ai mis 5 ans à l'écrire ce livre quand même. Et ça a été fastidieux, il y a eu beaucoup de recommencements et puis il y a beaucoup de doutes. Mais bon, je pense que quand on croit à ce qu'on fait, on finit toujours par y arriver.
Ça fait 5 ans que vous êtes sur ce livre et je vous dis, c'est déjà un phénomène. Vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter, May ?
Oui. Ma brigade de police m'a harcelée pour savoir mon heure de passage. Et j'ai pas voulu leur dire parce que je veux pas me sentir écoutée. Donc c'est pour eux. Ils le verront peut-être.
C'était sur mais voilà.
On embrasse Laurent Nouniel ici. Hein. On l'embrasse fort.
Coucou la brigade.
Nous aussi, on salue la brigade. C'est rare qu'on salue une brigade. Ouais. Salut à tout le commissariat.
Elle s'appelle May Lepage. Ça s'appelle Sécher tes larmes. Une enquête d'Emma Fauvel chez Verso. Merci.
Merci à toi.